Alors, je vais vous demander ce matin de prendre vos Bibles, vos appareils électroniques, et puis de tourner dans Luc au chapitre 1. Et ce matin, on va regarder le contexte de la naissance de Jésus. C'est que on va essayer de se replonger dans le temps et essayer de comprendre certaines choses qui sont révélées dans cette merveilleuse parole, et en même temps voir ce que Dieu veut nous enseigner dans cette préparation, dans ce contexte de la naissance de Jésus. Et je commence par quelques questions, c'est-à-dire ce qui se passe après la naissance du Seigneur Jésus. C'est très intéressant à examiner, évidemment, le reste du Nouveau Testament. Mais on pourrait aussi, là, devant ce contexte-là, devant ce texte-là, je devrais dire, se poser plusieurs questions. Et les questions que j'ai en tête sont celles-ci. Est-ce que la naissance de Jésus a été préparée? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça ou c'est quelque chose qui a été bien préparé? Hein? Préparé par notre Dieu, et on va voir ça. De quelle façon? Hein? Comment Dieu a-t-il préparé la venue de son Fils sur la terre? Ensuite, en quoi ce récit qui est rapporté par l'évangéliste, le docteur Luc, nous concerne, hein? Comment dire, comme la belle phrase en anglais, « What's in it for me? » Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là pour moi, en 2019? Qu'est-ce que la parole me dit? Et en cette fin d'année-là, qui s'annonce pas facile, hein? L'année 2019, on dit que qui me disait ça, que le panier d'épicerie est censé grimper, c'est Linda.
400 $ par année.
Oui, de plus. Ça va affecter plusieurs foyers, plusieurs personnes, plusieurs familles. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire, moi, cette naissance de Jésus-là? Et enfin, quel bénéfice spirituel puis-je en retirer? Et je pense que c'est là la chose la plus importante. Parce que spirituellement, comme on l'a vu la semaine passée avec notre frère Mathieu, que je veux remercier, puis Luc n'est pas ici, qui ont pris ma place pendant 2 semaines et qui vous ont porté le bon message de parole. Mais c'est que la vie sainte, la vie, la sanctification se fait dans un processus. Ce n'est pas acquis du jour au lendemain, je deviens un être spirituel. Si c'est ça, je doute que ce soit, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est quelque chose qui se bâtit régulièrement. Donc, avant d'aller plus loin, on va se courber. On va remettre le texte, la parole ce matin à notre Sauveur et qu'il puisse nous parler. Ça. Oui, Père éternel, tu nous garde encore ce matin par ta parole. Et combien on veut, Seigneur Dieu, qu'elle demeure toujours l'enseignement fidèle de ton Église ici même à Hawkesbury et à travers le monde entier aussi. Ce matin, devant ce texte-là, qu'on puisse se préparer à la journée où on célèbre la naissance de notre Sauveur. Encore une fois, cette date qui a été choisie ne correspond peut-être pas à la naissance directe de Jésus, mais tout de même, c'est la date qu'on choisit, nous, pour se rappeler cette naissance, c'est-à-dire. Prépare nos cœurs, Seigneur Dieu, ouvre-les, dispose-les à l'écoute, qu'on puisse retenir les valeurs spirituelles enseignées dans ce texte qui est une histoire qui nous est racontée par Luc. mais qui contient beaucoup de choses à retenir spirituellement. Sois béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Amen. On va regarder le texte d'un peu plus près. L'actualité, la période qu'on est dedans, là, pas là, mais dans ce temps-là, met en évidence une attente messianique. C'est-à-dire qu'il y avait comme une sorte de frénésie ou d'excitement. On était dans cette attente-là. Il y a un Messie qui s'en vient. Et un événement dans le temple va être souligné par Luc. Et cet événement-là, c'est avec le papa de Jean-Baptiste, évidemment, qui est Zacharie. Mais juste pour vous expliquer un peu, c'est que le temple de Jérusalem, c'était le haut lieu spirituel. C'était la place là où, comment est-ce que je pourrais vous donner un exemple là? C'est pas peut-être un bon exemple, mais la Saint-Pierre de Rome, tu sais là. Ben là, c'était le temple de Jérusalem, c'était un haut lieu spirituel. Et où convergeait, je devrais dire, toute la foi populaire, tous les gens qui avaient la foi allaient là, la foi dans la foi hébreu. C'était l'endroit où Dieu va se révéler. Premièrement, dans Luc 1, versets 1 à 7, OK? Regardez dans vos Bibles, là. L'Éternel va choisir un couple. Le mari, c'est Zacharie. Zacharie, c'est un sacrificateur. Et Élisabeth, c'est une descendante de la célèbre famille sacerdotale d'Aaron. On sait que cette famille-là avait été choisie pour faire des sacrifices. Ce choix-là, ce n'est pas un hasard. Autrement dit, il s'agit d'un foyer engagé et consacré. Élisabeth puis Zacharie étaient des personnes consacrées. Ils vivaient tout l'enseignement de Dieu. On voit ça au verset 6. Excusez-moi, là, c'est sec à matin ici. Ils vivaient tout l'enseignement de Dieu. En plus, ce couple, en même temps, vit un drame. Et le drame, c'est que Élisabeth, elle est une femme stérile. Et on sait que dans ce temps-là, la stérilité de la femme était perçue comme étant une malédiction. Donc, être stérile, c'était une cause fréquente de bannissement par le mari. Le mari pouvait repousser sa femme. « Tu ne peux pas avoir d'enfant, je ne te veux plus. Je te bannis. » Et ça, ça causait un problème, évidemment, pour cette maman-là. Cette femme-là, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était rejetée. Et ensuite, l'importance de la descendance était telle que le problème demeurait grave pour les deux familles. C'est-à-dire, il va-t-il avoir une descendance? Et en dernier lieu, ce couple-là, un couple fidèle encore à Dieu, fidèle en tout, vivait dans l'attente messianique. Ils sont des gens fidèles, allez aux Écritures, ils vivent un drame de celle qu'Élisabeth est stérile, et enfin, ils attendent le Seigneur Jésus, le Messie. Le choix de Dieu étant toujours à propos, va essayer. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en percevoir la symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu, tu as agi comme ci? Donc, en partant d'Élisabeth et de Zacharie, ce couple fidèle-là, il va être appelé à mettre au monde un enfant. Et sa raison d'être, c'est de préparer le chemin du Messie. Ça va être le rôle de Jean-Baptiste. Et cela va laisser entrevoir qu'un autre choix va suivre. avec les mêmes caractéristiques. Donc, Zacharie et Élisabeth vont vivre ce qu'on appelle l'impossible humain. Ce qui est impossible à l'humain. Ils sont annonciateurs d'une autre histoire encore plus ancrée dans l'impossibilité. Ils vont vivre l'impossible humain et ils annoncent une autre histoire ancrée dans l'impossible. Enfin, dans un contexte d'attente messianique, ces événements-là, étant en eux-mêmes porteurs d'espérance, parce qu'on espérait justement la venue du Messie, c'était quelque chose d'encourageant. Et cette attente-là allait trouver sa récompense, c'est-à-dire la réponse s'en venait. Elle était proche. Vous avez presque fini d'attendre. Donc, on va dire que ce n'est pas par innocence si l'action de Dieu se manifeste par un ange, alors que Zacharie, il est en train d'officier dans le temple et que le peuple est à l'extérieur du temple en prière. L'ange arrive. Pendant des siècles, dans la première partie du temple, c'est-à-dire dans le lieu saint, chaque jour et à plusieurs reprises, le sacrificateur officiait. Et ses gestes et son service sont en eux-mêmes une prédication qui est vivante de la venue du Messie, annonciatrice de la venue du Messie. Et pendant le service quotidien, le sacrificateur faisait brûler des aromates qui symbolisaient la présentation des prières qui montaient vers Dieu, la prière des fidèles qui étaient dans cette attente-là du Messie. Le peuple pouvait pas concevoir ne pouvait concevoir son avenir qu'à travers, justement, la réalisation de cette promesse-là. Et le miracle de la naissance de Jean était donc ce qu'on appelle un indice de la venue prochaine, de la venue proche du Messie. On constate que rien n'était fait au hasard, ni laissé à l'improvisation. Par là, ce que Dieu, il déroge pas à sa démarche ancestrale. Il y a un passage dans Amos, chapitre 3, verset 7, qui dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs prophètes. Il n'y a rien que Dieu va faire sans que cela ait été annoncé. Et c'est justement la naissance de Jésus, la naissance de Jean même avait été annoncée. Et si Jean lui-même est appelé à être grand, celui qui va annoncer la parole de Dieu, bien, il va être grand, pas la parole de Dieu, mais la venue du Messie, il va être encore davantage grand. Mais on peut se poser la question, en quoi Jean a-t-il été grand? Si on regarde avec nos yeux humains, Jean était loin d'être représentatif de la pratique spirituelle de son époque. On parlait plutôt, on dirait aujourd'hui que c'est un gars qui est marginal. Même bizarre. Un gars bizarre. Il mangeait des sauterelles, imaginez-vous. Il vivait dans le désert. C'est pas l'endroit le plus accueillant, en tout cas. Les discussions doivent être plates et monotones. Pourtant, Jésus dira, c'est-à-dire qu'il fut le plus grand prophète. Pourquoi, pensez? Parce que Jean, c'était l'homme d'une mission. Et quelle mission? C'est lui qui ouvre le chemin. Il vivait une vie solitaire dans un cadre où lui-même luttait pour sa survie à tous les jours. C'était pas sécure trop de vivre dans le désert. Par contre, une vie comblée sous la direction du Saint-Esprit, mais exempte de tout ce qui peut être une atteinte à la dispersion. Et j'ajouterais à la distraction. Et ensuite, et à la concentration dans sa vocation. Donc, dans ce contexte-là, où Jean ne boira pas de vin, point de liqueur forte, comme on voit au verset 15, une vie sobre, en bref, on va regarder dans quel but. Et j'aimerais que vous puissiez tourner dans Luc, chapitre 1, comme je vous ai dit tantôt, et les versets 16 à 17. Donc, on va dans Luc, chapitre 1, versets 16 à 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, le but était de réunir père, enfant, famille, donc mettre en place ce qu'on appelle un processus de réconciliation. C'est sûr, il y avait la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Mais Jean, dans sa préparation, voulait réunir le peuple. Et ensuite, de préparer un peuple qui va être bien disposé au Seigneur. Autrement dit, favoriser l'accueil du Messie tant attendu. Et ces éléments-là annoncent des caractéristiques de la mission du Messie. C'est-à-dire, Christ est venu pour réconcilier la famille humaine avec son Père céleste et aussi pour préparer le peuple des fidèles à rencontrer Dieu. Il y a des similitudes là. Jean veut préparer le peuple, le préparer, le réunir. Jésus va vouloir la même chose, réconcilier les familles avec Dieu, les personnes avec Dieu. Et ensuite, évidemment, préparer nous les fidèles pour le retour du Seigneur. Et ce grand projet-là de Jean va se heurter à ce qu'on appelle l'incompréhension de Jean et de Jésus en même temps. Incompréhension. L'humain, on pourrait dire qu'il entre difficilement dans l'aventure de la foi. On a de la misère à croire. Pourquoi? Parce que l'inconnu est toujours source de questionnement. Zacharie cherchait à comprendre ce qui était impossible pour lui. À l'âge que je suis rendu, à l'âge que ma femme est rendue, ça se peut pas que ma femme soit enceinte. Donc, la nature humaine, c'est-à-dire, Zacharie va s'interroger face à cette injonction divine-là. Mais la nature humaine est faite comme ça. on est plusieurs couples âgés. Je sais que nos femmes ne voudraient peut-être pas tomber enceinte, là. Mais s'il fallait que le Saint-Esprit, ben, qu'il permette, que Dieu permette qu'on ait des enfants, eux autres, ils étaient rendus à 90 et plus, là. Donc, oui, on aurait eu peut-être de la misère à croire ça. Donc, il faut sans cesse être assuré. Et le défi de l'inconnu, souvent, est trop fort pour nos petites épaules. Pourtant, c'est dans une direction, dans cette direction-là, que Dieu nous invite à avancer avec confiance. Quand vous dites aux gens, la fin du monde, le Seigneur revient bientôt.
Yes.
Oui, yes. Mais, on se fait traiter de fou souvent. Hein? On se fait rire de soi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose pour l'être humain de quasi impossible. Mais nous, on y croit. Du moins, j'espère. Et on est dans cette attente-là du Messie. On a hâte qu'il revienne. Malgré toute l'attention de Dieu sur nous, là, Dieu nous aime. Le fait est que l'homme se construit lui-même des obstacles qui handicapent sa foi. Il faudrait des fois peut-être s'arrêter puis les compter, ces obstacles-là. Qu'est-ce qui m'empêche de croire à ça? Ou comment je dirais bien ça? D'avoir la foi que cette personne-là est bien en misère et que je vais l'aider. Mais, je ne sais pas. C'est toutes des questions de foi. Zacharie, il n'échappe pas à ça. Et bien qu'il soit bien spirituel, on l'a dit au début, c'est écrit, c'est un couple spirituel et qui, imaginez-vous, il officie à chaque jour dans le temple. Il n'a pas encore saisi la vérité que rien n'est impossible à Dieu. Il n'a pas saisi encore. Au verset 18, il se questionne. Mais sa question laisse apparaître un doute. Pourquoi? Parce qu'il est vieux. Sa femme est vieille. Pourtant, l'ange Gabriel vient pour lui annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Pas rien de méchant. Il attendait un enfant. Sa femme ne pouvait pas. Puis là, elle peut. Puis là, Zacharie accueille, et même sa femme accueille cette nouvelle-là avec une pointe d'incrédulité. Du coup, c'est à nous de nous interroger. Comment peut-on être très spirituel et incrédule à la fois dans sa foi? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, ouais, c'est ça. Sarah, elle a souri avec l'annonce de cette bonne nouvelle-là. De la venue, elle a souri à la venue d'un fils alors qu'elle avait dépassé le temps d'enfanter. Zacharie, lui, malgré qu'il connaît les Écritures, il aurait dû s'en souvenir. Puis nous, frères et sœurs, quand Dieu vient nous annoncer une bonne nouvelle, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on accueille cette bonne nouvelle-là dans la joie? Ou bien, oh, on se pose des questions pour masquer un peu notre incrédulité? Oh, ça ne m'arrivera pas. Comment est-ce que ça peut arriver à moi? Mais c'est là qu'est le message de Noël, frères et sœurs. On va en parler un peu plus la semaine prochaine. Mais le message de Noël fait appel à la confiance en Dieu. Dieu n'a pas cessé de venir vers son peuple, vers toi, vers moi. Lui, c'est lui le porteur de bonnes nouvelles. Mais ce qui refroidit tout cela, c'est la présence du doute en relation. Et ça fait que ça rompt souvent la communication. Zacharie, malheureusement, va vivre la rupture physique. Il ne pourra plus parler, il va être muet. Imaginez-vous qu'est-ce que cet homme-là aurait pu communiquer. Mais le Seigneur a dit, tu doutes, je vais te rendre muet. Et pour nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle place occupe le doute dans notre relation avec Dieu? C'est beaucoup de questions à se poser. En lisant ce texte-là cette semaine, vous allez avoir une bonne semaine remplie spirituellement, lire le cantique minucrédien, puis ensuite lire, peut-être écouter le message encore parce qu'il y a des bouts qu'on n'aura pas compris. Mais on a à se poser ces questions-là. Est-ce qu'on réalise qu'on est peut-être des Zacharie? On est peut-être irréprochable dans l'observance des commandements de Dieu et on passe à côté de l'essentiel dans notre relation avec Dieu. C'est grave. La foi présuppose une indéfectible confiance en Dieu. Autrement dit, une confiance sans rien pour obstruer cette foi-là, cette confiance-là. Et Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Est-ce qu'on croit cela? Zacharie va devoir poursuivre son service en muet. Quel dommage, comme j'ai dit tantôt. Hein, il aurait pu être porté, ou être une bonne opportunité pour témoigner de l'amour de Dieu. Il aurait pu faire ça auprès des fidèles. Dieu vient pour annoncer qu'il va sauver son peuple. Et Zacharie, qui est un membre influent de ce peuple-là, répond avec le doute. C'est comme si moi, ce matin, je vous prêcherais l'Évangile, mais dans le fond de moi-même, je n'y crois pas. Zacharie n'adhère pas à cette bonne nouvelle-là. Nous, souvent, on n'adhère pas à cette bonne nouvelle-là. Élisabeth, la même chose, elle le cache au verset 24, on peut voir. Pendant 5 mois, la puissance de Dieu est en action. Sa motivation est difficile à comprendre, celle d'Élisabeth. Est-ce que c'était par pudeur ou par honte? Ici, comme elle le dit au verset 25, le Seigneur lui ôte sa honte devant les hommes. N'était-ce pas là encore le meilleur moment pour témoigner de la puissance de Dieu dans sa vie? Et toute cette introduction-là, pourquoi on a ce préambule-là dans l'Évangile de Luc? Ça a comme pour objectif d'attirer notre attention sur l'événement qui va suivre. Hein? C'est l'introduction de qu'est-ce qui va suivre, la naissance de notre Sauveur dans l'humanité. L'ange Gabriel, on dirait que c'est l'ange qui amenait des bonnes nouvelles de naissance. Si jamais vous le voyez, vous allez savoir c'est pourquoi. Donc, l'ange Gabriel va annoncer une autre naissance. Et là, on est rendu au verset 26, 27 de notre épître, de notre évangile, c'est-à-dire de Luc. Il se déplace de Jérusalem vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers Nazareth. Et apparemment, comme je vous ai dit, c'est le même ange qui annonce la naissance. Joseph et Marie sont fiancés. Ils ne sont pas mariés. Ce qui veut dire, dans le langage biblique, que deux familles, famille de Joseph, famille de Marie, sont engagées. Joseph, lui, c'est un descendant de la famille de David. Tout à l'heure, la référence était le sacerdoce de Zacharie. Maintenant, avec la maison de David, c'est la royauté. La révélation traverse donc deux piliers de l'histoire d'Israël. Le sacerdoce et ensuite la royauté. Donc, l'ange Gabriel, lui, va s'adresser à Marie, naturellement vierge avant le mariage, comme c'est la coutume de ce temps-là. Et Gabriel est porteur d'une bonne nouvelle. Dieu lui fait la grâce de devenir la mère du Sauveur de l'humanité. Ce n'est pas de l'improvisation. Tout est déjà arrêté. Regardez bien ça. Verset 31. Si vous voulez aller dans le verset 31 de Luc 1. Son nom va être Jésus. Le fait est décidé. Le fait là, c'est-à-dire, est décidé par Dieu, comme pour Jean. Verset 31. Ensuite, au verset 32. Il sera grand. Si on regarde le verset 15, c'est comme Jean-Baptiste. Ensuite, il sera appelé à régner comme son père David, Dieu, bien-aimé, le Fils de Dieu. Ensuite, il va régner sur la maison de Jacob, père de la nation israélite, et son règne n'aura pas de fin. Autant dire qu'il va traverser les temps. C'est la conclusion du message de l'ange Gabriel à Marie. C'est aussi mon souhait, frères et sœurs, pour chacun de nous, à partir de maintenant. Laissons-nous submerger par cette bonne nouvelle-là. Ça ne paraît pas souvent dans notre face qu'on est joyeux du fait que notre Seigneur revient. Il ne revient pas comme un bébé, là. Puis pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, puis vous avez le privilège d'entendre cette parole-là, il est encore temps pour venir à Dieu, pour lui confesser le fait qu'on est des pauvres pécheurs, condamnés, pas mieux les uns que les autres. Mais le fait qu'on le reconnaisse, Dieu apprécie ça. Et Dieu pardonne, peu importe ce qui est de lui. Puis maintenant, on a besoin de son aide pour vivre selon ce qui est écrit dans les Écritures. Et Dieu va nous montrer graduellement ce qu'il a fait. Donc, c'est mon souhait de se laisser submerger par cette bonne nouvelle-là en se disant qu'à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Imaginez-vous, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Être impossible, c'est le verbe impossible, comme souvent dans le grec, et il est composé d'un, ce qu'on appelle un privatif. C'est-à-dire qu'il indique son contraire. Et il est composé aussi d'un verbe qui signifie avec la force de, être capable de. Donc, le verbe traduit bien la condition humaine. On n'a pas la force spirituelle d'entrer dans le tout possible de Dieu. Je le répète, on n'a pas la force spirituelle d'entrer dans le tout possible de Dieu. Mais encore mieux, on est incapable. Il y a un seul remède, c'est-à-dire reconnaître Dieu comme étant Dieu. Reconnaître Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, le Seigneur de notre vie. En prendre acte, c'est-à-dire agir comme et vivre avec. Vivre cette parole de Dieu. Alors, ce qui va arriver, c'est que le champ de la foi en nous va s'ouvrir. Et là, on se positionne sur ce qu'on appelle la ligne de départ de cette merveilleuse aventure avec Dieu. C'est extraordinaire. Le paradoxe, on pourrait dire, est à son zénith. C'est quand on prend conscience de sa propre faiblesse que la force nous est transférée. Paul l'a expérimenté. Il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je vais faire comme un des pasteurs américains. Répétez après moi, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je conclue. J'aurais pu l'étendre encore plus long, mais la semaine prochaine, on va être rendu au chapitre 2 de Luc, la naissance de Jésus. Mais cette histoire-là, et Luc est un des meilleurs historiens, c'est lui qui a écrit son évangile, l'évangile de Luc et l'évangile, les actes des apôtres. Mais ce récit-là nous redit que notre Papa du ciel ne cesse pas de vouloir composer avec nous, les humains. Il a pu faire comme Bewitched, tu sais, il a juste ding-a-ding-a-ding, puis tout a arrivé. Non. Dieu veut que les choses se passent, puis il ne nous exclut pas dans ce processus-là. Il a peut-être au commencement, quand il a créé le ciel, la terre, l'univers, toutes ces choses-là. Mais là, il utilise toi, il utilise moi. Il nous dit encore que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est que d'oublier ses promesses certaines. Dieu les a écrites par la main de ces personnes-là qui ont écrit. C'est à nous d'inculquer ou d'inscrire ces paroles, ces promesses dans notre cœur pour ne pas les oublier. Oui, Dieu déroule un plan conçu pour le bien de chacun de nous. Dans le contexte de l'époque, c'était la venue du Messie. Lui, un porteur d'une immense espérance. On n'a pas compris parce qu'on pensait que c'était pour être un guerrier pour les défendre contre les puissances de Rome, alors que lui venait comme un sauveur, sauveur des âmes. La petite portion de notre vie sur la terre qui est une poussière et rien à comparer à l'humain, l'éternité. On va passer l'éternité où? Au ciel. Pour ça, ben, il va falloir que cette fête moquée soit peut-être être moins acceptée des autres. Mais au moins l'éternité, on va la passer avec Jésus. Ou bien on la passe en enfer. Ou parce qu'on a voulu avoir tout ici-bas, bien, on a oublié que l'éternité était proche. Il va falloir avoir confiance dans la réalisation de la promesse de la venue d'un sauveur, du sauveur, de notre sauveur, de notre Messie. Ce qu'on doit annoncer aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment né. Jésus a vraiment quitté le trône qu'il avait pour naître sur la terre. Mais l'autre chose, c'est qu'il va revenir nous chercher. C'est un projet de notre grand Dieu. Ce projet-là nous dit que c'est Dieu qui ponctuera l'histoire de l'homme positivement, comme il l'a prévu pour le retour de son Fils. Donc, laissons-nous contaminer. Mettons de côté là, les Purex, là. Laissons-nous contaminer par la bonne attitude de Marie, l'exemple de Marie. Elle ne comprend pas tout, mais elle s'abandonne à Dieu. Je ne comprends pas toutes les Écritures, mais je fais confiance en Dieu. Et ce lâcher prise-là l'a entraîné dans cette merveilleuse aventure-là, une aventure de foi. C'est tout le bien que je nous souhaite pour cette fin d'année et pour cette nouvelle année qui va commencer. Avançons avec confiance. La sortie est par le haut. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir.
Merci, Denis. Donc, je demandais à Michel de bien vouloir s'avancer pour les offrandes. Pendant qu'il va passer, on va introduire un autre nouveau chant que